nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Une lettre de Descartes de 1641 éclairant la publication des méditations métaphysiques a été découverte en 2009 par un chercheur néerlandais dans la bibliothèque Haverford College en Pennsylvanie. Interview des découvreurs de la lettre, Théo Verbeek et Eric Janbos, et de Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française, tous éminents spécialistes de Descartes. Vous entendrez également une interview de Mireille Pastoureau, directrice de la bibliothèque de l'Institut, qui présente les ouvrages de Descartes que possède la fameuse bibliothèque. Théo Verbeek, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter cette interview dans la bibliothèque de l'Institut de France, où vous êtes aujourd'hui pour la cérémonie de la remise d'une lettre de Descartes qu'on a retrouvée, une lettre datée de 1641, retrouvée aux États-Unis. Vous êtes...
Je suis professeur d'histoire de la philosophie moderne et la personne qui a trouvé cette lettre, enfin c'est un de
mes
collaborateurs.
Voilà.
Un de mes collaborateurs.
L'université d'Utrecht s'est lancée dans un projet concernant les études sur Descartes et sur le réseau scientifique des savants à l'époque de Descartes.
C'est vrai.
Pourriez-vous nous présenter ce projet ?
Enfin, c'est un projet qui tâche d'avoir une vue plus ou moins complète et détaillée du réseau scientifique tel qu'il s'est formé autour de Descartes dans les années qu'il a vécu aux Pays-Bas, donc pendant son séjour. Cette vingtaine d'années de 1629 jusqu'en 1649. Les personnes qui jouaient un rôle... enfin qui étaient des points, disons, nodaux dans ce réseau, des intermédiaires, etc., etc., des scientifiques, mais aussi des personnes officielles comme Huygens et comme d'autres. Donc ça, c'est l'objet primaire de ce projet. Mais dans ce cadre, et peut-être ce projet était même une sorte de prétexte, enfin pour pouvoir faire cela, on travaille sur une nouvelle édition critique de la correspondance de Descartes, qui est bien nécessaire parce que la dernière édition vieille de plus de 100 ans. Depuis, on a enfin des connaissances beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées, non seulement des manuscrits et des textes, mais aussi enfin des dates de la vie de Descartes.
Alors, qu'est-ce qu'on sait en règle générale de cette correspondance de Descartes, dont il existe déjà une édition ancienne dont vous venez de parler ?
C'est évidemment une édition de seconde génération, pour ainsi dire. Donc, il y a déjà un corpus, mais depuis la fermeture, enfin la clôture de cette édition-là, on a retrouvé pas mal d'autres lettres. Par exemple, la correspondance de Descartes et Huygens, qui est un ensemble de plus de 100 lettres, maintenant à la Bibliothèque nationale de France, ici à Paris, qui normalement sont datées d'une façon très précise et qui forment, pour ainsi dire, le squelette chronologique de la correspondance. Parce qu'un grand nombre des lettres de Descartes que nous connaissons nous sont parvenus non pas en autographe, mais en forme imprimée, impression qui remonte au XVIIe siècle.
Et très souvent, à partir de
1656, on a commencé à publier la correspondance en trois volumes. Et l'éditeur de cette édition, Claude Clersolier, avait parfois les autographes, ou avait accès aux autographes, mais beaucoup plus souvent il ne l'avait pas. Il devait utiliser ce qu'on appelle les minutes de Descartes. Donc ce sont ça peut être tout ce qui va d'une simple note. Ébauche, note en vue d'une lettre, jusqu'à une copie de la lettre telle qu'elle est envoyée. Donc c'est un ensemble assez hétérogène, donc certaines lettres sont datées, d'autres ne le sont pas. De certaines lettres, on connaît le destinataire, d'autres, on ne le sait pas. Et ça, c'est le, comment dire, le noyau enfin, de cette correspondance. Or, et c'est là important dans cette connexion, à l'époque, il y avait déjà un fonds de lettres de Descartes, enfin les lettres de Descartes à Mersenne, au père Mersenne, mort en 1648, qui étaient restés ensemble.
C'est une des rares correspondances qu'on a eues à un moment dans sa totalité.
Enfin, il y a eu un moment, toute façon, où on avait, avec par exemple cette correspondance de Huygens, qui est presque aussi grande que celle de Mersenne, et qui, au surplus, a l'avantage, enfin Huygens, l'avantage qu'il n'y a pas seulement les lettres de Descartes, mais aussi les lettres de Huygens. Les lettres de Huygens.
Tandis que
dans le cas de Mersenne, c'est le plus souvent, les lettres envoyées par Descartes à Mersenne. Or, ces lettres, après la mort du père Mersenne, ces lettres devenaient, on ne sait pas exactement de quelle façon, mais devenaient la propriété de Robert Val, un mathématicien français, un des fondateurs de l'Académie des sciences, en 1660. Et après sa mort, cette collection devenait la propriété de l'Académie des sciences.
Les lettres sont rentrées
dans la possession de l'Institut de France lors de la création de l'Institut de France par Napoléon au début du 19e siècle. Mais Clerselier, et c'est là un point très important, Clerselier lui-même n'avait pas accès à cette collection Robert Val.
Dans sa documentation.
Donc pour les lettres de Descartes à Mersenne, il ne disposait que des minutes de Descartes. Tandis que la collection quasi complète de la correspondance originale est, disons, à deux pas de sa maison, enfin, dans Paris. Mais il n'avait pas accès parce que Robert Val n'aimait pas du tout Descartes. Et a quelque peu frustré enfin, les intérêts des cartésiens, tant qu'il le pouvait, donc jusqu'à sa mort.
Donc après il n'a donné qu'une partie des archives, en fait, et les moins intéressantes.
Non, il a gardé la collection intacte, mais il ne donnait simplement pas accès à cette collection à Clerselier. Donc ce n'est qu'après la mort de Robert Val que cette collection devenait accessible, plus ou moins accessible. Et le biographe de Descartes, Adrien Bayet, a pu voir les originaux. Et avant de les voir, on a dressé un inventaire, parce qu'à ce moment-là, l'Académie des sciences envisageait elle-même une nouvelle édition de cette correspondance. Projet qui a échoué.
Dès sa création, en fait, dans les premières années.
Oui, enfin, fin du XVIIe siècle. Donc, c'est le premier inventaire qui a été fait de cette collection. Et c'est aussi un des inventaires, il y a un autre dans la période révolutionnaire, par lequel on connaissait cette lettre. Enfin, on savait qu'il y a une lettre de cette date, 27 mai 1641, mais dont le contenu était complètement inconnu.
Alors, on n'avait pas le contenu de la lettre.
Pas du tout.
Et donc, un de vos collaborateurs part
Monsieur Bosch part
à Harford College pour faire des recherches. Dans quel but il y allait, en
non,
fait
Non, c'est plus simple que cela. En fait, il fait des recherches plus ou moins systématiques tout le temps. Mais maintenant, avec l'Internet, l'Internet facilite énormément les choses. Il trouvait dans le catalogue électronique de Haverford College une lettre de Descartes. Ça se fait souvent. Parfois, enfin, le plus souvent, c'est une copie pas intéressante ou enfin, n'importe quoi. Donc, il faut toujours faire des vérifications. Donc, il a pris contact avec Haverford College et le bibliothécaire de Haverford College a été très, très, très aimable et lui a envoyé immédiatement un scan de la lettre et ça nous a permis immédiatement mais de juger aussi que cette lettre était complètement inédite.
Alors, inédite, vous avez identifié aussi tout de suite que c'était une lettre authentique de
Absolument.
Descartes, rien qu'au scan, à l'écriture. Comment cette authentification
L'écriture
peut se
de
faire
Descartes est très, très, très reconnaissable. Enfin, ouais. C'est une écriture très précise. Enfin, c'est une écriture qui, à l'époque, était très moderne. Donc, c'était une écriture à l'italique, comme on disait. Donc, c'est l'écriture moderne, en fait. Donc, la forme des caractères, exactement la même que dans l'écriture moderne. C'est une écriture très, très, très régulière, avec certaines particularités qui... tous ceux qui ont quelque expérience de cette correspondance
la reconnaissent
immédiatement. Puis il y avait la signature qui est aussi très reconnaissable. Et il y avait cette donnée que dans les inventaires qu'on avait, il y avait effectivement une lettre de cette date,
Mais
dont le contenu était jusque-là ignoré.
Alors, que contient cette lettre donc? Quelle fut la découverte?
C'est une lettre très longue, c'est 4 pages, donc c'est relativement long, bien que pour des lettres amersiennes, c'est presque normal.
Oui, c'était leur correspondance habituelle. Peut-être d'abord faut-il que nous précisions quelle était la nature du lien intellectuel entre Mersenn et Descartes.
Effectivement.
Qui correspondait, mais dans un but très particulier
très
pour Descartes.
Particulier.
Donc Descartes était en Hollande et Mersenn était à Paris.
Son correspondant principal, sinon son correspondant unique en France, c'est-à-dire à Paris. Mersenn avait rassemblé ici, à Paris, un cercle, ce qu'on appelait son académie de savants. Lui-même était très au courant de toutes les discussions scientifiques partout dans le monde. Donc le monde était un peu plus petit que maintenant, mais disons en Europe, et était lui-même le centre d'une correspondance très 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 étendue avec beaucoup de savants européens. Donc ce qu'il faisait pour Descartes, c'est qu'il lui communiquait toutes les petites nouvelles, toutes les petites demandes de la capitale, il les présentait à Descartes, demandait son opinion, etc. etc. Donc c'était son correspondant principal, sinon son correspondant unique. Au surplus, il était à cette époque-là plus particulièrement concerné avec la publication d'un ouvrage très important de Descartes, Les Méditations, qui ont été publiées pour la première fois à Paris en 1641, une deuxième édition en 1642, Amsterdam, mais il y avait une édition française, et comme Descartes se trouvait toujours aux Pays-Bas, c'était Mersenn qui surveillait la publication. Et presque toute la lettre concerne des détails sur la publication de Méditations. Et virtuellement, tout ce qu'on y lit est nouveau, complètement inconnu. Et donc,
La composition du livre. Avant son impression définitive.
Voilà, ça surtout. C'est un élément totalement nouveau qui a étonné tous les collègues, qu'à l'origine, ce livre avait un plan complètement différent. Donc, naturellement, il y avait le texte des méditations suivi par les objections et réponses. Ça, c'est connu. Mais cette lettre nous montre qu'à l'origine, Descartes avait l'intention de faire précéder les méditations, le texte des méditations, d'une traduction latine de la 4e partie du discours de la méthode et d'une préface dans laquelle il s'entendait plus particulièrement avec un certain Petit qui l'avait accusé presque d'athéisme. Donc Descartes était très sensible à ce sujet, évidemment, mais entre-temps, et cela nous est appris également par cette lettre, entre-temps il avait reçu la visite de quelques Français, et un de ces Français lui avait dit des choses sur Petit, qui l'ont amené à adoucir sa préface. Donc dans la préface que nous connaissons, Petit n'est plus nommé, la traduction latine du discours n'y est plus, et pour tout cela, on trouve les instructions dans cette lettre.
Donc en ça, elle est précieuse puisqu'elle donne un éclairage sur l'histoire de l'impression des méditations.
De la composition et de l'impression.
De la composition et de donc en fait, cette correspondance a des répercussions sur l'œuvre même. Je le crois. Et sur les choix de Descartes.
Je le crois. Oui, je le crois. Oui.
C'est
oui,
un grand jour aujourd'hui.
Pas tellement pour nous, enfin pour nous, parce que pour
vous
nous.
Vous avez quand même été. Rien ne change. À l'origine de la découverte.
Mais enfin, c'est toujours. Oui, voilà, toute cette publicité nous a éclipsés un peu. Hein.
Alors, l'édition critique de la correspondance que vous menez, ça sera pour 2010.
Non, pas pour 2010. Enfin, j'espère 2011-2012. Ce sera publié par Oxford University Press en Angleterre. Et ça comprendra quatre gros volumes de correspondances et de notes. Et de, oui.
Votre édition critique concerne absolument, évidemment,
toutes les lettres connues. Qu'elles soient nous arrivées en autographe ou en minute ou en forme imprimée ou en citation, tout est possible chez Descartes. Hein.
C'est donc votre université qui a cette belle mission.
Oui.
Quelle est l'institution dans le monde qui possède le plus de lettres de Descartes?
C'est la Bibliothèque nationale et puis l'Université de Leyde, la bibliothèque de l'Université de Leyde.
D'accord. Oui.
Enfin, de lettres originales. Hein. Je ne parle pas de copies, mais enfin de lettres autographes originales. Oui. Mais enfin, la plus grande collection, c'est la Bibliothèque nationale. Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Théo Verbeek, de nous avoir éclairé sur cette correspondance de Descartes, auquel on pense peu et qu'on connaît peu. On connaît davantage l'œuvre que la correspondance.
Trop peu. Oui. Merci, madame.
Merci beaucoup.
Merci.
Jean-Luc Marion, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui où à la Bibliothèque de l'Institut de France est remise une lettre de Descartes retrouvée aux États-Unis, une lettre datée de 1641 qui a été retrouvée par des chercheurs néerlandais qui font des études et qui s'occupent en particulier de la correspondance et de l'édition critique de la correspondance de Descartes. Alors vous êtes un éminent spécialiste de Descartes, vous écrivez sur Descartes depuis 1975 et vous êtes membre de l'Académie depuis 2008. Vous avez été élu au fauteuil de Jean-Marie Lustiger. Jean-Luc Marion, est-ce que vous pourriez nous présenter globalement la correspondance de Descartes? En quoi est-ce que c'est important par rapport à son œuvre?
Ah ben c'est capital. C'est capital parce que Descartes est dans une situation littéraire différente de la nôtre, où les publications de livres ne sont pas l'unique moyen de travailler dans les sciences et dans les lettres. Et une partie de leur activité, de l'activité des chercheurs de cette époque, se faisait par correspondance. Les correspondances étaient des lettres qui étaient, nous dirions maintenant souvent des articles, qui étaient envoyés à quelqu'un. Il était bien clair que la lettre allait être recopiée et envoyée à tous les gens qui s'intéressaient à la question.
Ça se passait comme ça. D'accord.
À l'époque, il n'y avait pas de revue scientifique. Les revues scientifiques ont été créées dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc, au XVIe et au début du XVIIe, c'était des correspondances entre les gens dont on savait qu'ils étaient compétents et qu'ils étaient spécialisés dans un problème. Ils s'envoyaient des lettres, souvent assez longues, qui étaient véritablement des articles, un peu comme un article sur Internet, une lettre sur Internet dont on sait qu'elle va être dupliquée et renvoyée à d'autres gens compétents. C'est exactement comme ça.
Donc on les écrivait en pensant qu'elles allaient être diffusées.
On était presque certain qu'elles allaient être connues par d'autres. Donc la correspondance était une activité à plein temps. Donc il y a des choses qu'on trouve dans les correspondances qui ne sont pas dans les textes publiés par ailleurs. Il y a des gens qui sont connus que par leur correspondance, qui n'ont pas publié de livres, mais dont la correspondance était très célèbre. Et Descartes a une activité de correspondance très importante. Sa correspondance est aussi longue que ce qu'il a publié de son vivant. Et en particulier, il y a des thèses essentielles d'interprétation de Descartes qu'on ne retrouve pas dans les textes publiés. Donc, toute lettre de Descartes, ce n'est pas un petit commentaire anecdotique, « Cher ami, on se retrouve demain à tel café », comme les correspondances du XIXe siècle. Ce sont des correspondances scientifiques essentielles. Alors là, nous avons une lettre qui n'est pas un traité.
Alors, quelle est la particularité de cette lettre?
Alors, ce n'est pas un traité, ça n'est pas une œuvre publiée, c'est une lettre que Descartes envoie à son ami correspondant, je veux dire exécuteur littéraire, enfin éditeur, en charge de ses affaires à Paris, il est en train de publier, de corriger les épreuves des méditations de 1641. C'est Mersenne. Le père Mersenne qui était au couvent des Minimes, près de l'actuelle place des Vosges. Il y a encore une rue des Minimes où se trouvait ce couvent, entre la place des Vosges et la Bastille, qui a été détruit, mais le lieu demeure marqué. Donc il était là et Descartes descendait à Paris quand il revenait chez Mersenne. Et Mersenne est l'ami de Descartes, l'ami de confiance, qui surveille les épreuves, qui corrige les épreuves, qui envoie les épreuves à Descartes pour qu'il les regarde en Hollande, et qui en même temps...
Il l'avait chargé d'une mission particulière, je crois, aussi.
Mersenne était Monsieur Descartes à Paris.
À Paris.
Voilà, c'est très simple. Donc tout passait par Mersenne. Au point que quand Descartes a eu cette idée tout à fait remarquable, et un peu étrange pour nous, de publier son livre avec des objections, Et des réponses. Tout ça dans la première édition. C'est-à-dire le livre est publié avec la discussion qui va avec.
C'est-à-dire que Descartes, avant de publier son livre, souhaitait...
Envoie des épreuves à des gens. Mersenne choisir les bons interlocuteurs. Les gens font très sérieusement un long compte-rendu avec des remarques et des objections. Et Descartes répond et tout ceci paraît dans la première édition. Ce qui suppose quand même...
Celle de 1641.
Oui. Ce qui suppose quand même une ouverture d'esprit extraordinaire. Je connais peu de philosophes qui aient fait ça. Il n'y en a aucun, à ma connaissance, qui aient fait ça.
Oui.
L'idée que Descartes soit un homme rigide, dogmatique, etc., est réfutée simplement par sa manière de faire. Et ceci parce qu'il y avait eu, quand il avait publié 4 ans auparavant le discours de la méthode et les essais, il y avait eu des gens qui avaient répondu, fait des objections. Et Descartes était frustré de n'avoir pas eu l'occasion de répondre.
De répondre, de ce droit de réponse.
Et alors là, il se donne ce droit de réponse en provoquant les questions. Et il envoie donc des remarques sur ses réponses. Sur ce qu'il faut dire sur les réponses. Alors, il y a quelques corrections qu'il demande. Alors, curieusement, il demande, si je ne me trompe pas, 4 corrections. Il y en a 3 qui sont des corrections positives. Il faut ajouter quelque chose. Celles-là ne sont pas faites. Il y a une correction où il dit qu'il ne faut pas ajouter quelque chose. Et ça, c'est fait, puisqu'il n'y a rien à faire. Mais alors, c'est encadré par 2 remarques sur ses correspondants. Il y a M. Petit qui avait des objections contre lui, qui envoie un ami le voir en Hollande. Et il y a aussi un ami du père Bourdin, jésuite, qui avait fait des objections contre l'histoire de la méthode.
Ça, c'est dans la lettre de 1641.
Et alors, là, il dit qu'il les a reçus chez lui, ça s'est bien passé, et qu'il retire le texte qu'il avait préparé en préface des méditations pour les réfuter, ce qui est quand même très bien. Et à la fin, il y a une remarque sur le fait qu'un de ses principaux adversaires dans les objections, Pierre Gassendi, qui était un chanoine du chapitre de Digne, mais qui était par ailleurs un adversaire de Descartes sur le fond en philosophie, il était atomiste alors que Descartes n'était pas atomiste, ils étaient anti-aristotéliciens de manière différente. Il avait une très grande réputation, c'était un grand écrivain en plus, un grand érudit, il avait une grande correspondance, etc. Et Gassendi a fait des objections très longues, Descartes dit qu'il lui faudra 3 semaines pour y répondre, des objections très longues, et où ils se sont sérieusement accrochés. Et néanmoins, Descartes dit, Monsieur Gassendi, dans ses objections, me donne toujours la version latine de mon nom, Cartesius, et pas Descartes. Et il dit, Monsieur Gassendi est un très bon écrivain, je crois qu'il faut le suivre. Veillez à ce qu'on m'appelle partout dans le texte latin de ses objections, Cartesius et non pas Descartes, parce que ce n'est pas joli en français. Et ça a été presque respecté, sauf sur la page de titre. Donc Descartes se laisse baptiser ou rebaptiser par son adversaire, ce qui est quand même assez joli. C'est un témoignage sur le fait que ces gens étaient plus polis, plus érudits, et plus honnête que nous.
Respectueux en tout cas de l'échange.
Oui, mais je veux dire, ils avaient un rapport humain qui sous-tendait les débats intellectuels que, pour une large part, nous avons perdu.
Pour le cas de ce document de 1641, sur la totalité des lettres qu'on connaît de Descartes, dans celles qui ont été recensées, qu'est-ce qui manque dans l'étude de cette correspondance? Quelles sont les pistes de recherche actuellement sur cette correspondance?
Non, mais il y a eu des travaux, il y a eu un colloque il y a quelques années qui avait lieu à Perugia, en Italie, qui a fait le point sur l'état actuel de la correspondance de Descartes. Il y a eu une grande édition italienne faite à Lecce, publiée à Milan, admirable, de l'édition des lettres. Par ailleurs, en prenant la globalité de ce dont nous disposons, il y a une autre tentative faite à Utrecht, qui consiste à chercher de nouvelles lettres. Ce sont 2 choses différentes. Rééditer complètement ce qu'on a, en complétant, en vérifiant les chronologies, etc. Et d'autre part, faire des enquêtes, pour ainsi dire policières, de trouver des nouvelles lettres. Ça, c'est la tentative de l'université d'Utrecht. Et alors, nous avons des indications. Descartes, dans ses correspondances, ou ses correspondants font allusion à des lettres que nous n'avons pas. nous avons des lettres qui sont citées par d'autres que nous n'avons pas. Et il est normal qu'on ne puisse pas retrouver toutes les lettres. Descartes ne gardait pas tous les doubles, ou ça a pu être perdu dans ses papiers, etc. Donc il y a toujours l'espoir de continuer à trouver des lettres. Nous retrouvons des petites, pas importantes, celle-ci est plus importante. On peut même espérer retrouver des manuscrits de Descartes. Et en particulier les règles pour la direction de l'esprit, qui était un texte de jeunesse, qui n'a jamais été publié par Descartes, qui est inachevé. Donc nous savons qu'il y avait un manuscrit, des copies, etc. Mais nous pouvons espérer retrouver un manuscrit, ou une copie de manuscrit. Donc, si vous voulez, l'histoire de la philosophie n'est pas close. Il est absolument certain que dans toutes les bibliothèques d'Europe, je compte dans les bibliothèques d'Europe les bibliothèques américaines, si je puis dire, et d'autres peut-être en Amérique du Sud, il y a sûrement des manuscrits de Descartes qui dorment.
Vous enseignez à l'Université de Chicago.
Enfin, à la Sorbonne d'abord.
À la Sorbonne, à Paris 4, vous êtes titulaire de la chaire de métaphysique. Je pensais que vous évoquiez les États-Unis. Justement, quelles sont les recherches menées aux États-Unis sur Descartes ?
Aux États-Unis, nous avons fait, enfin des amis, mais je participe à cet effort, ont fait une bibliographie des publications sur Descartes jusqu'en 2002. Et nous avons constaté que sur les 20 dernières années, la moitié de ce qui paraît sur Descartes dans le monde est écrit en anglais. Et vient des États-Unis. La recherche, les études cartésiennes aux États-Unis sont quantitativement au moins indiscutablement très très vivantes.
Elles sont axées sur quoi ?
Surtout sur la philosophie des sciences, les arguments métaphysiques, la théologie de Descartes, enfin sur...
Non, il n'y a pas un angle particulier particulièrement novateur ou...
Non, mais je veux dire...
Justement, il pourrait y avoir des approches différentes,
je ne sais pas. En fait, vous savez, tout le monde est au courant de ce que tout le monde fait. Et il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une division des continents, que la recherche est divisée par les continents. En fait, il y a tellement d'Américains qui sont ici et tellement de Français qui sont là-bas qu'on tend de plus en plus à se poser les mêmes questions. On ne les résout pas de la même manière, mais ça ne dépend pas essentiellement de la langue et du lieu dans lequel c'est fait.
D'accord, il n'y a pas une école particulière ?
Si, il y a des écoles aux États-Unis, celle de mon ami Dan Garber en histoire des sciences sur Descartes est très éminente. Il y a eu des écoles, celle de Harry Frankfurt et de l'interprétation linguistique en style philosophie analytique de Descartes. Mais en même temps, il y a des gens en Europe et en France qui font la même chose. Donc ce n'est pas une recherche qui se fait en équipe nationale, c'est des équipes internationales.
D'accord. Qu'est-ce que vous retiendriez de cette correspondance savante du XVIIe ?
Vous
l'avez dit tout à l'heure.
Oui, je retiens qu'il y avait à l'époque, sans Internet, des relations de recherche internationales extrêmement étroites. Vous savez, la maladie que nous avons, c'est de penser que ce qui se passe chez nous, à notre époque, est exceptionnel, n'a pas de précédent. C'est une plaisanterie. Les lettres mettaient beaucoup de temps pour traverser les choses, mais tous les gens compétents étaient en relation entre eux de manière très étroite. Quand Descartes faisait une lettre privée, toute l'Europe la connaissait un an après. Donc l'idée du village global intellectuellement était déjà réalisée. Il faut quand même comprendre qu'on a commencé à publier des livres de philosophie en Amérique centrale dès 1630, en latin. C'est-à-dire que Descartes a sans doute été connu aux États-Unis avant sa mort, par l'intermédiaire de gens qui étaient des disciples de Descartes, qui avaient été envoyés là-bas, etc. Il est vraisemblable que le père Mélan, qui était l'un de ses correspondants, qui a été envoyé là-bas un peu à titre de punition dans les Antilles françaises, où il est mort d'ailleurs, qui était un cartésien convaincu, il a dû enseigner de la philosophie et donc du Descartes. Dans les années 1645-50, Descartes est mort en 50, dès le vivant de Descartes. Donc il ne faut pas que nous ayons cette idée que les gens étaient isolés, perdus, ce n'est pas du tout le cas.
C'était initié... par la Renaissance déjà. Quelle était la différence alors avec ce réseau, des lettres
La République des lettres, elle existait déjà au Moyen-Âge, elle existait dans l'Antiquité.
Donc en fait, elle se...
Bien sûr, mais je pense que la République des lettres a été brisée d'une certaine manière avec l'émergence des cultures nationales. Quand, après la Révolution française, en gros, tout s'est nationalisé. Chacun dans sa langue, chacun avec son philosophe dominant, ses revues dominantes, ses institutions les uns contre les autres. Et nous sommes en train de revenir à l'état antérieur. Je veux dire, il y a eu une interruption de la République des Lettres, je dirais, par le nationalisme dans la vie culturelle, qui est un épisode relativement récent, qui a deux siècles et demi, qui a été une très mauvaise chose. Et donc, nous sommes plus proches du XVIe, XVIIe siècle que du XIXe. Et c'est très bien comme ça.
Alors juste pour terminer, quand un philosophe ou un chercheur sur la philosophie de Descartes découvre une lettre, comment vous en êtes informé ?
Celui qui l'a découvert, M. Jan Boos, est un élève de mon vieil ami Théo Verbeek, de l'Université d'Utrecht, avec lequel nous travaillons ensemble depuis 20 ans, qui m'a fait docteur honoris causa de son université, qui est toujours à Paris. M. Jan Boos a été dans mon séminaire. On se connaît par cœur.
Donc là, c'est...
Sitôt qu'une chose comme ça, tous les amis se retrouvent, parce que vraiment, nous nous connaissons depuis toujours. Donc c'est un événement familial.
Voilà. Merci. Jean-Luc Marion. Eric Jan Boos, vous êtes un spécialiste des cartes. Vous travaillez à l'Université d'Utrecht.
Oui.
Et vous êtes un des collaborateurs de Théo Verbeek. Vous êtes l'heureux découvreur d'une lettre de Descartes datée de 1641 que vous avez retrouvée à Harford College. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous êtes parti aux États-Unis, pour quelles raisons, et puis comment vous avez découvert cette lettre?
Oui, bien sûr, merci. Alors, on prépare à Utrecht une nouvelle publication, édition de la correspondance de Descartes. Et c'est pourquoi on essaye à trouver la lettre lui-même, elle-même, dans les bibliothèques partout le monde. Et c'était dans une recherche à l'Internet que j'avais trouvé une référence à cette lettre.
Que vous avez voulu vérifier?
Bien sûr, mais j'ai écrit une mail et je n'ai pas pris... un avion pour aller aux États-Unis, non? J'ai écrit un mail à John Andrews, le librairien de Haverford College. Et oui, il m'a dit que c'est enfin une lettre autographe de Descartes. Et il m'a envoyé les photographes de la lettre. Et j'ai reconnu immédiatement l'écriture de Descartes. Alors l'authenticité, c'est sans
doute... A été immédiate.
Oui. Oui, oui,
sans avoir besoin de la voir en vrai.
Alors, je crois que les photos sont...
parlantes.
Parlantes, oui. Et c'était parfait. Et alors, j'ai reconnu immédiatement l'écriture de Descartes, mais aussi que cette lettre était totalement inconnue. Et c'est alors une grande joie et une aventure de lire cette lettre.
Parce qu'en fait, elle n'avait jamais été ou imprimée ou recopiée. On en connaissait l'existence, mais pas du tout le contenu.
Oui, c'est ça. On connaît l'existence de la lettre, déjà depuis le XVIIe siècle, mais on pensait que cette lettre était perdue.
Alors, quel est l'intérêt de ce document?
Ah, l'importance de cette lettre, c'est à la fin de la lettre, Descartes écrit qu'il a reçu un visiteur de la France, c'était Claude Picot. Et en sa compagnie, il y avait un gentilhomme de Touraine. Et cet homme a dit à Descartes qu'un de ses opposants à Paris avait une très bonne impression des méditations de Descartes. C'est un livre que Descartes était en train de publier à Paris, pas en Hollande, mais à Paris, sous la supervision de Marin Mersenne, qui est en fait
le destinataire de cette lettre.
Oui, c'est ça. Et... cet visiteur a dit à Descartes qu'un de ses opposants avait une bonne impression de la méditation de Descartes. Et c'est pourquoi Descartes demande à Mersenne de ne pas publier quelques textes qu'il avait ajoutés aux méditations. Et c'est sans doute que dans ces textes, il avait attaqué très fièrement son opposant.
Est-ce que c'est une lettre qui diffère des autres lettres que vous connaissiez de Descartes? Est-ce que c'est un échange habituel entre Mersenne et Descartes?
Oui, parce que Mersenne était la plus importante correspondante de Descartes. Il discutait tout avec Mersenne. Ses ambitions, ses plans, son commentaire sur les contemporains, etc.
Ils étaient mathématiciens et philosophes tous les deux. Oui. Ils avaient beaucoup de points communs. Est-ce qu'il y a un autre équivalent dans la correspondance comme ça, d'une collaboration aussi proche entre Descartes et quelqu'un d'autre?
Non, à ce niveau.
Pas à ce niveau. C'est la particularité de cette relation.
Oui, 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 oui. Alors, Descartes était en correspondance avec des autres, bien sûr, notamment Henri Régis à Utrecht, professeur de médecin, qui était un disciple de Descartes. Mais Descartes avait l'habitude de se piquer sur ses amis, mais jamais sur Mersenne. Et alors, Mersenne était un ami extraordinaire.
À propos de la correspondance de Descartes, est-ce qu'on sait à peu près avec combien de savants il était en contact, puisque c'est l'objet premier de vos recherches sur grands réseaux scientifiques au niveau européen à l'époque? Donc Descartes est en relation avec combien de personnes à peu près?
En gros, 80.
80.
85, 90 peut-être. Mais...
C'était une activité à plein temps, cette correspondance.
Oui, c'est étonnant. Nous connaissons près de 800 lettres et maintenant un de plus.
Et c'est fréquent de tomber sur des lettres comme ça inconnues?
Non, pas du tout.
La dernière fois, c'était quand?
L'année dernière. c'était une très petite lettre, mais sans importance.
Et quelle a été votre réaction quand vous avez compris que c'était une lettre autographe de Descartes inconnue?
Alors, j'ai été stupéfait. C'était une grande joie, naturellement. Surtout quand je voyais l'écriture de Descartes, la lettre elle-même. À lire cette lettre, à lire ce texte, c'était une grande aventure. Parce que aucune personne connaît ce texte et toute sentence contient de nouveaux faits, de nouvelles informations, de nouvelles perspectives sur Descartes et la réception de ses méditations.
Et par exemple, ces nouvelles perspectives, ça serait quoi?
Alors, nouvelles perspectives sur son plan de publication de ses méditations, surtout, oui.
On découvre qu'il avait prévu de faire autrement ou qu'il a changé au dernier moment. Enfin,
il a supprimé trois textes et a substitué par une autre préface. Alors c'est la préface qu'on est maintenant publiée.
Vous pensez redécouvrir d'autres lettres de Descartes?
Je l'espère.
On vous le souhaite.
Merci.
Merci en tout cas. Mireille Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la bibliothèque de l'Institut de France. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres lettres de Descartes en votre possession?
Oui, alors c'est une histoire assez triste, parce que ces autres lettres ne sont qu'au nombre de 17, dont 16 de Descartes au père Mersenne, alors qu'il en existait 75 au XVIIIe siècle. Ce qui veut dire que la plus grande partie des lettres de Descartes au père Mersenne ont été volées. Et celles que vous voyez ici dans cette vitrine ont été récupérées après le vol de Libri, après le procès qu'il a condamné. Des personnes ont retrouvé, quelquefois dans les collections de leur père, de leur mari, au moment du décès, ont retrouvé des lettres et ont jugé bon à la fin du XIXe siècle de les restituer à l'Institut. Donc ce sont des provenances assez diverses. Nous avons un dossier qui est assez intéressant avec les lettres des personnes rendant ces autographes de Descartes qu'ils avaient retrouvés. Et donc nous allons joindre cette nouvelle lettre qui nous est restituée, nous allons la joindre au dossier que nous avons, mais qui est bien moins important que ce qui existait avant ce néfaste vol de Libri.
Quelles sont les pièces que vous avez présentées aujourd'hui dans la bibliothèque?
Alors, nous avons fait une petite exposition avec des éditions imprimées des lettres de Descartes. Nous avons la première édition imprimée qui est, c'est très intéressant, date de 1657, donc c'est extrêmement tôt. On a très tôt édité des lettres de Descartes. Alors, rappelons, n'est-ce pas, que cette lettre qui nous est restituée était inconnue, donc n'a jamais encore été publiée. Mais d'autres ont été publiées. Nous avons la première édition de 1657 et nous avons aussi la deuxième édition qui date de 1667. Qui est extrêmement intéressante parce que notre exemplaire est unique. Il a été complété par Claude Clercelier, qui était l'éditeur des lettres de Descartes et qui avait collationné ces lettres sur les originaux, qui avait trouvé beaucoup de notes complémentaires. Et nous avons l'exemplaire personnel de Claude Clercelier, que vous voyez ici dans la vitrine, qui est tout à fait unique avec des petits béquets, des petits papiers ajoutés, des notes de toutes sortes. Et cet exemplaire a été en 2005 réédité par un correspondant de l'Institut de l'Académie des sciences morales qui est le père Armogat, qui a fait une très belle édition en Italie parce que les Italiens s'intéressent beaucoup à Descartes. Il y a un centre d'études de Descartes à l'université de Lecce en Italie. Donc vous avez à côté de l'original de cette édition de Clercelier en trois volumes, vous avez l'édition en facsimilé qui est maintenant disponible pour un plus grand nombre. Beaucoup d'universités ont acquis cette édition avec tous les commentaires du père Armogat. Alors, il y a également beaucoup d'autres éditions. Vous pouvez voir les méditations métaphysiques en vitrine, le discours de la méthode, des œuvres philosophiques de Descartes publiées à l'époque avec son portrait.
Et dans la vitrine où vous avez mis la lettre de 1641, figure un autre volume avec les lettres. Vous pouvez nous le présenter, ce volume ?
C'est le volume avec les 17 lettres qui nous restent, qui ont été restituées après coup, qui ont été reliées, vous pouvez voir, dans une reliure assez modeste, faite à la fin du 19e siècle, à une époque où la bibliothèque n'avait pas beaucoup d'argent. Et je dois dire que la bibliothèque avait été pas pillée, mais enfin avait été vraiment affaiblie par les vols de librairies. Et rien que la reliure de ces lettres nous donne une idée, j'allais dire, de la morosité ambiante qui régnait. Maintenant, on ferait une très belle reliure. Et en fait, là, on a une reliure tout à fait modeste pour 17 lettres qui valent des sommes faramineuses, naturellement. Et ça donne une idée de la tonalité de l'époque.
Pour avoir un ordre de grandeur, combien se chiffre la somme ?
Tout ce que je peux dire. Donc cette lettre-là, nous n'avons pas voulu l'estimer parce qu'on considère qu'elle est inestimable, mais une lettre de Descartes déjà connue et passée en vente en Suisse en 2006 et 2009, de la même série des lettres volées par Libri, et la mise à prix pour la vente aux enchères, enfin le prix estimé était 150 000 euros.
Et globalement, ça fait combien de pièces de Descartes d'éditions rares que la bibliothèque possède ?
Nous n'avons pas un très grand nombre parce qu'il n'y a pas eu de dons de collectionneurs. Je dirais que nous avons une vingtaine de volumes anciens du XVIIe siècle en édition ancienne.
Pour finir, à quand remonte donc le dernier achat que vous avez fait d'une pièce comme ça, d'une édition rare ou d'une lettre de Descartes ?
Et alors, je vais vous dire, ce genre d'achat, nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce sont des pièces qui dépassent largement le budget de la bibliothèque, malheureusement. Donc nous nous contentons déjà de conserver les fonds anciens qui nous ont été légués par nos prédécesseurs, ce qui est magnifique, et de recevoir aujourd'hui des dons. Et les achats que nous faisons sont de bien moindre importance. Ils sont néanmoins intéressants, mais nous n'achetons plus d'œuvres de Descartes. La cote est trop élevée sur le marché mondial.
Merci Madame Pastoureau.
Au revoir.
Vous venez d'entendre Jean-Luc Marion de l'Académie française, Théo Verbeek et Eric Jan Bosch de l'Université d'Utrecht, tous éminents spécialistes de Descartes, et Mireille Pastoureau, directrice de la bibliothèque de l'Institut de France, qui présentait les ouvrages de Descartes que possède la bibliothèque.